Donc, bonjour tout le monde et merci à la structure de gouvernance de Justice Climat de m'avoir invité à vous parler de travaux qui se sont inscrits dans une double continuité. Alors, une première continuité parce que j'ai eu la chance de bénéficier du soutien du GIS Climat pour étudier le GIS Climat, donc dans le cadre d'un projet de recherche-action avec les chercheurs du GIS Climat pour essayer d'entamer une réflexion de fond sur la construction de cet objet qu'on appelle l'interdisciplinarité. Mais une double continuité aussi parce que dans la partie de mon activité qui est l'étude des sciences et techniques, les premiers groupes de chercheurs que j'ai étudiés sont les paléoclimatologues. J'étais encore au Canada à ce moment-là et j'étais financé pour étudier une catégorie particulière de climatologues dont on pensait à l'époque qu'ils étaient interdisciplinaires, même si eux souvent se définissaient comme d'une nouvelle discipline qu'est la paléoclimatologie. Alors, l'autre chose qui est importante à dire avant de démarrer, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est un travail collectif qui s'est inscrit dans le temps long avec la direction du GIS Climat, avec les membres du comité d'orientation, avec des responsables de projet, mais aussi avec des chercheurs et des chercheuses qui m'ont accompagné dans le processus. Donc le début du processus dans le cadre du projet Ramon, c'est les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Anne Blanchard, qui est maintenant en Norvège et qui travaille sur des questions d'interdisciplinarité de climat et d'éthique et de climat. Et puis pour la réalisation spécifiquement du chapitre...
Ça me permettra de bouger.
Ok. Nettement plus fort. Ok, donc je disais, il est important de souligner que c'est un travail collectif, que donc j'ai bénéficié de l'appui de la direction du GIS Climat comme sujet, mais aussi comme collègue du comité d'orientation et aussi de jeunes chercheurs qui m'ont accompagné dans le travail, notamment Anne Blanchard au début du processus d'analyse, qui a fait sa thèse sur le GIS Climat et qui est maintenant en Norvège, et Carrie Deprey qui est dans la salle là-bas et qui est essentiellement la tête pensante qui a permis de réaliser ces diapositives. Mais comme l'analyse s'est inscrite sur maintenant 6 ans, 7 ans, c'est moi qui me retrouve en face de vous. Alors, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait et que je vais vous présenter? Je pense que c'est important de savoir qu'ici, on a fait un pas de côté. On s'est mis, je vais appeler ça, dans une perspective décalée sur les activités du GIS, en essayant d'être à la fois observateur et participant, ce qui est toujours une situation où on translate en permanence entre l'action, qui est notre métier, la majorité d'entre nous ici, et l'observation de notre action. Et un pas de côté, pourquoi? Mais d'abord parce qu'on avait envie de se préparer à une synthèse finale et essayer d'éviter d'être le nez dans le guidon, donc d'avoir un minimum de distanciation, mais aussi parce qu'il nous semblait, alors évidemment c'est facile à dire comme ça, mais il nous semblait que l'expérience du GIS Climat était suffisamment intéressante, unique, originale, même si elle s'inscrit dans un contexte où d'autres gens menaient le même genre d'expérience, suffisamment unique, intéressante, originale, pour arriver à la production de textes de référence au-delà du rapport. Et donc Carrie, qui est là au fond de la salle, prépare deux articles qui seront des articles qui nous permettront de partager l'expérience du GIS Climat avec la communauté tout en respectant les canons de notre champ disciplinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On a essayé de regarder deux choses dans ce que je vais vous présenter. La façon comment fait-on pour renforcer la recherche interdisciplinaire sur le changement climatique et ses impacts, et comment on a appris, chemin faisant, au sein du GIS Climat, à essayer de faire ça. Et puis la deuxième, mais c'est un corollaire direct, c'est comment on arrive à développer une culture de réflexivité particulière. Évidemment, nous sommes tous réflexifs, nous sommes tous capables de nous regarder faire pour réfléchir à ce que nous faisons. Mais dans un contexte de construction de l'interdisciplinarité, eh bien, ça demande des modes de réflexivité un peu particuliers. Et il nous semblait intéressant à la fois d'expérimenter des modalités de mise en œuvre, de la réflexivité centrée sur l'interdisciplinarité, et puis d'essayer en quelque sorte de les évaluer, de regarder comment elles étaient reçues par la communauté. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Alors, avant de commencer, je voulais juste tomber d'accord sur ce que moi j'appellerais dans cette présentation-ci l'interdisciplinarité. Alors, quand j'utilise le mot interdisciplinarité, ce que moi je vois, ce que je définis pour nous dans la demi-heure qui vient, c'est une pratique scientifique qui est hybridée. Donc, vous allez voir la nature de l'hybridation menant à la production d'un discours, ou d'un discours d'enchaînement de mots qu'on appelle la science, hein, dont le mode de production, donc la façon dont on le fait, le mode de régulation, la façon dont on l'organise, le structure, le régime d'accumulation, la façon dont on le partage, la façon dont on le range, dont on l'accumule, eh bien relève pour l'un ou plusieurs de ces modes ou régimes d'au moins deux disciplines appartenant à des grands champs différents. Donc l'idée, c'est de trouver des hybrides au sein de l'activité du GIS Climat où, par exemple, on va utiliser le mode de production des climatologues, qui est très codifié par un mode de régulation, et puis on va essayer d'entamer une accumulation, un partage des connaissances en changeant les mots avec d'autres communautés. C'est un exemple, mais il y a mille et une autres hybridations. On a eu des cas où le mode de production et le mode de régulation des études des sciences et techniques, qui est un champ des sciences sociales, a fait l'objet, un autre exemple, d'un partage, donc d'une entrée dans le régime d'accumulation des climatologues. Donc cette grosse définition très large d'interdisciplinarité avec S inclut ce qu'on appelle traditionnellement multidiscipline, interdiscipline et transdiscipline, c'est-à-dire des degrés d'hybridation croissants entre champs disciplinaires différents. Parfois, ce que je vais vous dire pour assembler normatif, il faut, on doit, idéalement on devrait, mais c'est plutôt lié à un abus de langage de ma part ou à une maladresse. Je ne souhaite pas du tout que cette présentation soit normative. Alors, comme Sylvie l'a dit, la naissance du GIS s'inscrivait dans un contexte où, petit à petit, les sciences du climat ou la science du climat ou l'étude du climat a cru progressivement en degré d'hybridation, en degré d'interdisciplinarité. Alors, très grossièrement, hein, on peut démarrer ça avec une nécessité de comprendre le fonctionnement du système Terre dans les années 80, où petit à petit, les sciences qui étudient la Terre, qui étudient l'univers, qui étudient la nature, qui étudient le fonctionnement physique des objets, ont entamé une dynamique d'hybridation avec l'émergence de la paléoclimatologie, l'émergence de modèles empruntant des objets à différents endroits. Et en avançant dans cette compréhension du fonctionnement du système Terre, on s'est très vite rendu compte que le changement climatique en soi était un problème qu'on a appelé un problème pernicieux, un wicked problem, parce que, en fait, par une série de boucles de rétroaction d'une complexité incroyable, l'humain avait constamment un impact, un rôle à jouer, que ce soit en termes politiques, comportementaux, à toutes sortes d'échelles. Et donc, petit à petit, on commence dans les années 90 avec une relative importance à inclure l'économie, par exemple, comme déterminant possible de l'évolution du climat, les relations politiques internationales comme déterminant clair des possibilités d'évaluation et de compréhension des changements climatiques. Et puis on arrive au XXIe siècle où on se rend compte d'une série, je vais dire, d'échecs, et on se rend compte que le changement climatique est inévitable, que l'atténuation, on n'a pas vraiment réussi à être suffisamment radical dans nos changements de mode de vie pour éviter un changement climatique avec impact significatif. Et donc, le changement climatique devient à ce moment-là, dans le discours, un déterminant central de l'avenir de l'humanité. On a l'émergence d'un discours d'adaptation, etc., où là, les sciences sociales et les humanités deviennent mobilisées de façon répétée et importante. Et donc, on est dans les années 2000 en face d'une nécessité d'un appel à un changement de la façon de faire des sciences du changement climatique, de pratiquer l'étude du changement climatique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît, donc dans un contexte quand même porteur, mais pas automatiquement du tout, le GIS Climat en 2007. Donc un contexte historique qui fait de l'émergence du GIS Climat, en tout cas dans la petite narration que j'ai faite là, une conséquence logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est facile, d'une évolution de la pensée de nous et de nos collègues sur la nature du changement climatique. Je pense que ce sont des choses que tout le monde connaît ici, mais j'avais besoin de faire cette introduction. Avant de présenter ce que je vais appeler des résultats, alors ce sont les résultats du GIST, mais ce sont aussi les résultats d'une analyse, quelques éléments de méthode. Alors on a fait depuis quelques mois un travail sur l'ensemble des archives du GIST, c'est-à-dire l'ensemble de la production textuelle du GIST, y compris les comptes rendus de réunion, y compris éventuellement des correspondances avec les tutelles, y compris des textes de vulgarisation et des textes scientifiques. On a classé, compartimenté et puis analysé une série d'éléments clés des archives pour comprendre comment le fonctionnement du GIST se traduit par une production textuelle publique et non publique. Ensuite, à la lumière de cette analyse, on a conduit des entrevues semi-structurées avec des informateurs clés, parfois des porteurs de projets, parfois des membres des différentes structures de gouvernance, essentiellement le conseil d'orientation ou la direction. Et puis, ce texte, on l'a fait itérer en mode de co-construction avec les membres de la direction du GIST Climat. Et tout ça s'inscrit dans la continuité d'un projet qui est assez ancien maintenant, qui date de 2008, qui est le projet Ramon. Ramon, ça voulait dire recherche, animation, mobilisation des savoirs, climat, environnement, société, quelque chose comme ça, avec l'idée dans ce projet, donc un projet de recherche-action, que simultanément on animait, on venait en ressources dans la mesure des moyens disponibles pour appuyer les projets dans leur construction d'interdisciplinarité, mais aussi nous analysions le processus en temps réel. Alors maintenant, je vais pouvoir, je pense, commencer par des résultats. Et premier résultat est une espèce de frise chronologique simplifiée que nous avions besoin de faire pour essayer de voir comment s'inscrit dans le changement et dans le temps un objet comme celui du GIST Climat qui a évolué est un mot normatif, alors qui a changé au cours du temps d'une façon qui nous plaisait mieux. 2007-2008, c'est le démarrage du GIST Climat, on a des champs thématiques pour une série d'appels d'offres, donc climat global, politique énergétique, développement économique, extrême climatique et régions vulnérables, changement climatique, écosystème, utilisation des sols et ressources en eau, impact du changement climatique sur la santé. Vous voyez que ces thématiques sont des thématiques qui invoquent, dont le champ sémantique des mots qui sont là, invoquent immédiatement la nécessité d'appel à plusieurs disciplines. Si on prend climat global et développement économique, c'est clair que seuls les économistes et seuls les climatologues ne peuvent s'en occuper. Extrême et régions vulnérables, le concept de vulnérabilité est centré quand même sur l'humain. Changement climatique, écosystème et utilisation des sols et ressources en eau, hybridation, climatologie, écosystème et impact du changement climatique sur la santé. Clairement, connexion forte entre les gens qui peuvent étudier l'être humain en tant qu'être vivant en santé et le changement climatique. Donc, on démarre avec des thématiques qui envoient un message très clair de nécessité de répondre à l'appel d'offres avec des équipes qui sont capables d'adresser les questions présenté sous les deux côtés, le côté plus, on va dire, humain et le côté plus climat, comme s'il y avait une différence. Mais il y en a une historique dans l'organisation de la science, en tout cas. Et suite à ces appels d'offres, on reçoit donc au sein du comité d'orientation un grand nombre de réponses et on finance un petit nombre de projets avec clairement, l'appel d'offres a été compris par une série de consortiums. Mais il a été compris comme une nécessité, peut-être un peu trop. Je suis très prudent sur mes mots parce que dans un texte, il y a moyen d'être plus détaillé, mais compris comme une forme de juxtaposition. Et une juxtaposition faite avec ce biais qu'induit l'urgence de la réponse à un appel d'offres. C'est-à-dire que ceux qui sont ici, qui ont répondu à des appels d'offres de ce genre savent, on se précipite, on tire une équipe, chacun met sa contribution, on juxtapose, et puis, si on a les sous, on regarde comment on fait après. Et ça crée un chemin qui n'est pas nécessairement un chemin de fertilisation croisée, mais plutôt un chemin de respect des engagements individuels, sans nécessairement arrimer, prendre le temps de réfléchir. Une fois qu'on a reçu le financement, on a des échéances à respecter, tout le monde avance, court, et ne pense plus tellement à nécessairement, enfin en tout cas c'est pas facile, ça prend du temps, c'est inhabituel, ne pense plus à commencer à construire ensemble un objet neuf, plutôt qu'une collection d'objets plus traditionnels appariés de façon neuve. Et donc en 2008, on a un point tournant qui est important, qui est une sonnette d'alarme du Conseil de groupement, donc le Conseil des tutelles du GIS Climat. Et il y a un extrait là du compte-rendu de la réunion du Conseil de groupement en 2008 qui dit « Les projets présentés cette fois-ci, certes très bons scientifiquement, manquent d'ouverture interdisciplinaire et sont souvent trop classiques. » J'ai ajouté le « souvent », c'est une erreur. « Sont trop classiques. » Et ce point tournant-là, il est très très important pour moi, en tout cas, et pour les gens qui, avec moi, ont regardé la vie du GIS Climat, parce que ça nous envoie deux signaux, je pense, assez forts. Le premier signal, c'est un signal de... Si on tient réellement à l'émergence d'un champ basé sur l'hybridation, il faut réinventer les modes de fonctionnement. Et je ne crois pas vraiment qu'on s'y attendait totalement. On pensait que simplement par le fonctionnement, par l'appel d'offres traditionnel avec des questions hybrides au niveau de la question, on pourrait générer automatiquement, et j'espère que je ne me trompe pas trop, des dynamiques jugées vertueuses de fertilisation croisée. Mais le deuxième message qui est encore plus important, c'est un message de gouvernance, parce que le conseil de groupement a réellement, à ce moment-là, mis les mains dans le cambouis en regardant quelle science était faite et comment elle était faite. Et là, il y a quelque chose d'assez important, je crois, c'est que les personnalités morales à l'origine du financement souhaitait réellement que l'objet ait une nature particulière. Mais aussi le comité d'orientation et la direction du GES souhaitaient réellement suivre dans un mécanisme d'échange et de respect mutuel les recommandations du conseil de groupement. Et donc à ce moment-là, une alerte est lancée et nous, je ne sais pas quel est ce nous, mais nous, le GIS Climat, devons essayer de changer la façon dont nous allons faire les choses. Ceci a déjà pris 2 ans. Le temps, ça va être très important. Et c'est ce que disait Sylvie au démarrage. Et le temps est tellement important que j'ai déjà pris 17 minutes pour faire un tiers des diapositives. OK. Deuxième période identifiable, c'est la période où on repense aux outils, où on repense à notre façon de faire, où on commence à entamer... une réflexion de fond sur le comment atteindre un objectif pareil. Et donc, en 2009-2011, on refonde totalement la stratégie du GIS Climat pour qu'il ne joue pas le rôle d'une agence de moyens, mais se positionne en rôle d'incubateur. Alors, le mot incubateur reviendra avec des sens différents, mais donc se pose avec un rôle d'aide à l'innovation, non pas au sens réducteur comme... on nous le bazarde pour l'instant à tour de bras, mais plutôt dans le sens réellement renouveler nos pratiques scientifiques. Alors cette stratégie, elle a été développée avec un travail dans une journée thématique, et puis une retraite de plusieurs jours à Seillac, retraite elle-même facilitée proactivement à l'aide d'outils nouveaux sur lesquels je reviendrai. Ce qui a permis à ce moment-là l'établissement d'une feuille de route qui a été soumise à l'approbation du conseil de groupement et qui a été approuvée. Et cette feuille de route changeait totalement notre façon de faire les choses en termes d'organisation des appels d'offres, de thématiques des appels d'offres, d'objets à faire. En même temps, on voit l'émergence de champs comme l'adaptation. On se rend compte de la nécessité de s'ouvrir à de nouveaux laboratoires des sciences humaines et sociales. On voit émerger aussi, et Sylvie en a parlé, des partenariats extérieurs au GIS Climat, tant avec des acteurs concernés par la question climatique ou avec des partenaires internationaux. Et on a la nomination formelle d'une direction adjointe à l'interdisciplinarité afin d'avoir à la fois une personne ressource qui peut accompagner le processus, identifier les gens qui peuvent travailler ensemble, mais aussi légitimer ces actions. Et finalement, la troisième période, qui est une période où il y a une entrée, je ne vais pas dire massive, mais il y a une entrée significative des sciences humaines et sociales, mais qui ne conçoivent pas de projet sans fertilisation croisée extrêmement intense avec des gens de la communauté climat ou de la communauté écosystème. Et en même temps, se passe à ce moment-là une montée en puissance de l'animation comme soutien à l'innovation scientifique dans l'interdisciplinarité. Et de nouveau, innovation ici ne signifie pas faire de l'euro avec de la science, ça signifie faire les choses de façon renouvelée. Et une expérimentation active de l'incubation de projets, c'est-à-dire du financement de phases courtes pour permettre aux gens de construire ensemble et de débroussailler ce qu'ils n'auraient pas pu débroussailler s'ils avaient eu simplement l'argent du projet et des échéances strictes. Alors, la déclaration, une déclaration qu'on avait pu lire dans de la littérature plus destinée au grand public, par exemple, c'est que le GIS devienne un laboratoire à idées en organisant différentes formes de débats scientifiques visant à identifier les besoins en recherche dans des thématiques phares et à stimuler l'émergence de projets novateurs. Alors, évidemment, ça peut ressembler à de la langue de bois, mais pour ceux qui l'ont vécu et qui l'ont vécu le nez dans le guidon, c'est vraiment ça qu'on sait. Le but n'était pas juste de coller des mots et de rassurer des tutelles et des collègues. Le but était d'avoir un laboratoire à idées, organisant des différentes formes de débats scientifiques, etc. Et en 2011, on a un rapport de notre comité, je ne sais pas comment il s'appelle, notre conseil d'experts extérieurs. Le conseil scientifique, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais j'ai du mal avec le nom statutaire. Et donc, il va notamment nous dire l'engagement du GIS Climat à porter une approche à la recherche intégrative et centrée sur des questions. Ils reconnaissent l'engagement et ils reconnaissent aussi le rôle proactif dans l'établissement d'une communauté interdisciplinaire. Et donc, c'est là. Nous sommes à ce moment-là en 2011, on va arriver en 2015 maintenant. C'est 8 ans d'expérimentation, de réflexion, de tests et d'invention tout à fait, en tout cas passionnante, vu de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a pu changer ou apprendre ou essayer d'innover. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a pu aller au-delà de l'existant, qu'on a pu sortir des sentiers battus? Alors, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte très vite, en tout cas la direction du GIS et le conseil comité d'orientation, qu'on avait besoin de flexibilité dans le format des appels d'offres. Nous ne pouvions pas juste reproduire des appels d'offres comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, par exemple, que les systèmes à date fixe sont des systèmes délétères à cause de ces mécanismes d'accélération, ralentissement, réaccélération, qu'on doit pouvoir envisager plusieurs appels par an, quitte à les cibler très précisément, qu'on doit pouvoir dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles nous recevrons des propositions et que nous sommes prêts rapidement à retourner vers les porteurs de projets pour voir si ces propositions correspondent à ce qui est souhaité au sein du GIS Climat. Proposer des lettres d'intention sans les rendre obligatoires. Si vous ne vous sentez pas prêt, soumettez-nous une lettre d'intention afin que nous puissions vous accompagner dans la construction d'un projet. Mais si vous vous sentez prêt et que vous voyez ce qui est attendu, soumettez un projet complet. Une grande diversité d'objets financés, des projets évidemment, mais aussi des animations, des visites de collègues étrangers, des séances de formation, des papiers concepts, des cycles de séminaires et d'ateliers. Donc toute une série d'objets tous destinés à permettre, à habiliter le débat d'hybridation. Et puis, un suivi proactif par le comité d'orientation de la science qui est faite et de l'hybridation interdisciplinaire qui est pratiquée. Et donc, nous ne sommes pas là juste pour juger à date fixe d'un rapport d'étape, mais plutôt d'accompagner, comprendre, participer. Tout ça pour mener à ce qu'on pense avoir eu, un impact sensible en termes de créativité et d'originalité. Évidemment, tout ça est très... Je devrais sans doute faire preuve de plus de modestie et de contournement, mais je n'ai pas eu le temps, dans les propositions adaptation rapide aux défis propres à l'approche interdisciplinaire. Donc c'était le but. Alors là, on retrouve constamment la question du temps. Et la question du temps, ce n'est pas seulement il faut prendre le temps, c'est aussi il faut arriver à communiquer vers les porteurs du projet que nous sommes prêts à les voir prendre le temps, pour peu que ce soit justifié. Nous sommes prêts à ce qu'une partie du temps de projet soit simplement une nécessité liée à l'échange et l'hybridation et que la production scientifique vienne après. Le temps, c'est aussi une question de cycle court, cycle long. Nos collègues, je dis nos collègues, parlant de ma communauté, climatologues, publient vite. Ils ont des résultats vite, comparés à nous. Nous, on met 3 ans en SHS, en moyenne, pour le moment où on démarre un objet, où on a un objet publiable, et eux, parfois, ils mettent 6 mois. On n'a aucune idée comment ils font. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre ça synchrone? C'est impossible. C'est, voilà, ils doivent nous attendre tout le temps. Et, ou bien nous, on se sent tout le temps bousculés. C'est une vraie question, ça tient au temps. Au temps différent, aux temporalités différentes qui sont les nôtres. Donc, le temps, est, ben, c'est sans doute le défi de toutes nos vies tout le temps, mais pour l'interdisciplinarité, c'est important aussi. Alors, on a eu aussi ce projet. Alors, ça, c'est évidemment super gênant d'en parler, vu que c'était un projet que je portais, le projet Ramon, qui était donc une recherche-action privilégiant une collaboration entre chercheurs de différentes disciplines au sein d'un cycle itératif d'action et de réflexion. Donc, l'idée, c'est chercher, agir, participer, et puis se retirer et voir ce qui se passe. Il s'agissait de se regarder faire à l'échelle du GIS, à l'échelle du projet, mais aussi à l'échelle de Ramon. Donc, en même temps que nous essayons de comprendre la structuration du GIS, que nous essayons d'accompagner et comprendre la structuration des projets, nous essayons aussi de comprendre ce que nous faisions dans, j'allais dire dans cette galère, mais c'est un automatisme lié au, dans cette. Donc, mais c'était là. Alors, ça nous a permis petit à petit, et c'est, j'arrive à la conclusion, il doit me rester 3 minutes ou quelque chose comme ça, à trouver que beaucoup de formes en termes de pratiques interdisciplinaires ont émergé. Une première grande famille, c'est des questions de fertilisation croisée. Alors, des disciplines habituellement isolées, des laboratoires qui ne se parlaient pas, eh bien, se mettent à se parler. Des équipes de chercheurs se saisissent d'un objet commun pour échanger. Un objet qui n'est pas géographique, où ils saisissent d'un objet géographique qui leur est commun et commencent à travailler, commencent à structurer soit des sources de différentes connaissances, donc à structurer des sources de connaissances différentes, et ils structurent ces sources de connaissances autour d'un objet, d'un terrain, d'un projet commun. Première modalité observée. Deuxième modalité observée, c'est une modalité où la production même de la connaissance nouvelle est une production hybridée avec un partage actif de données, avec une confrontation de données, avec le croisement de données. La donnée, c'est le building block de la production scientifique. C'est la fondation, le morceau sur lequel on s'appuie. Et donc, quand on est en production, la première étape, c'est de la production de données. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais si on doit hybrider nos modes de production, eh bien, commençons avec ces briques de base, commençons avec les données. Et quand on partage des données, on partage des outils, quand on partage des données, on partage des méthodes, puisqu'on doit pouvoir expliquer d'où viennent nos données et éventuellement choisir. Quand on partage des données, on partage des approches. Ça va être un peu court. Et finalement, on a eu aussi une pratique avec l'émergence de ce que je vais appeler des hybrides totaux, des hybrides où on ne retrouve pas vraiment très clairement des séparations disciplinaires. On a commencé à apporter ces concepts d'atelier, lieu de confrontation d'idées et de disciplines, où ce qui va sortir de l'atelier est un hybride lié au débat et aux échanges qui ont eu lieu. Vous avez des échantillons sur le présentoir à l'extérieur, je pense. Ou bien on a essayé d'inventer et puis tester des outils de mise en réflexivité qui sont des outils qui relèvent plus de la philosophie appliquée que de la recherche traditionnelle comme on la pense, mais les intégrer dans une pratique. Et donc, bon, j'ai une série de citations là, mais j'ai plus le temps. Oui, mais j'ai un chronomètre là. Ok. Ok, alors j'avais le temps avec les citations. Hop là. Donc les disciplines doivent apprendre les unes des autres et renoncer à une partie de leur territoire dans l'intérêt d'un équilibre de long terme, ceci sans renoncer à leur identité. Alors ça, c'est un exercice d'équilibriste. Accepter à renoncer une partie de ce qu'on est tout en restant qui on est. Cet exercice-là permet la mise en œuvre ou l'émergence d'hybrides totaux. Être réflexif sur sa propre discipline, c'est-à-dire être capable de faire un pas en arrière et de se regarder faire dans son champ disciplinaire et voir comment ce champ disciplinaire s'inscrit dans l'histoire de la pensée, par exemple, eh bien, est une nécessité pour la mise en œuvre de l'interdisciplinarité. Si nous ne nous connaissons pas bien, nous aurons du mal à partir à la découverte de l'autre. Quelque chose comme ça. C'est très simple, ces choses-là, mais ce sont des choses oubliées dans la pratique, souvent, nos observations. Arriver à se connaître les uns les autres à titre personnel et à titre dans les dimensions personnelles et disciplinaires et ainsi porter une zone ou créer ou faire naître une zone de confiance et d'ouverture pour réfléchir collaborativement sur et discuter des tensions qui peuvent qui arrivent nécessairement en fait, mais là, il y a marqué qui peuvent arriver dans des contextes interculturels et interdisciplinaires. Donc, être capable d'identifier les différences pour pouvoir en parler, pour pouvoir transcender ces différences, non pas simplement les effacer pour avoir la paix. Alors, là-dedans, dans tous ces travaux, on est arrivé au développement d'une suite d'outils à toutes sortes d'échelles. Et ces outils, je pense, sont importants et c'est sans doute concrètement, un des héritages du GIS qui, en tout cas pour moi, sont les plus impressionnants. Par exemple, des outils d'appui à la recherche à l'échelle du GIS. Le concept d'incubation. Comment fait-on pour accompagner un collectif qui a vraiment envie de faire un grand projet, mais qui ont dit, commençons à petits pas, commençons par définir réellement ce que vous allez faire. Donc l'incubation. Comment fait-on pour financer, organiser? Comment fait-on pour faire face aux déceptions? Des gens se mettent en processus d'incubation et puis il n'en sort pas quelque chose qui convient. Mais ils se sont déjà investis pendant un an. Pas simple, ça demande du travail. Un autre outil, c'est l'outil de la retraite. Alors, une retraite dans le monde anglo-saxon, c'est assez courant. Dans le secteur privé, c'est assez courant aussi. Beaucoup de journées de prospective existent. En France, dans le domaine de la science, des retraites formalisées où vous êtes déconnecté d'Internet et du téléphone et donc des contingences du bureau, elles sont rares. Pourtant, c'est phénoménalement, jumpstarté pour démarrer un truc en vitesse. En tout cas, c'est phénoménalement efficace pour amorcer une dynamique. Et puis, on a travaillé avec un outil qui existait avant, mais qui a vraiment été raffiné dans le cadre des travaux du GIS, qui est un objet qu'on appelle le cahier du participant, j'y reviendrai, qui est un objet qui est très simple et qui est en train d'essaimer joyeusement grâce au GIS Climat. À l'échelle du projet, dans les outils, il y a un concept, le concept de contrat inaugural, l'idée que si vous voulez lancer dans une dynamique interdisciplinaire, il est nécessaire d'expliciter vos attentes individuelle et collective, avant de démarrer le travail. Dans ce contrat inaugural, il va falloir tomber d'accord sur ce qu'est pour chacun l'interdisciplinarité, ce que c'est en termes de processus, en termes d'hybridation, en termes de résultats potentiels. Et puis de nouveau, le concept de cahier participant, qui est simplement un cahier lors de réunions, d'ateliers, de retraites, qui permet d'effectuer des pauses écrites, qui est l'outil pendant du cahier du participant, la pause écrite permettant aux gens de souffler dans des séances de travail qui sont parfois fort intenses. Et finalement, à l'échelle de Ramon, on a fait un travail sur l'utilisation des métaphores comme outil de distanciation réflexive. On en parlera peu ici. Mais ces outils sont là et ces outils sont utilisés et grandissent. Alors là, j'ai mis quelques exemples. Ce sont les exemples que je connais parce que j'y ai été soit confronté, mais impliqué. J'espère que ce ne sont pas les seuls. Par exemple, contrat inaugural a été discuté pour un projet qui s'appelle FATES, qui est un projet, je pense, financé par la BNP Paribas, qui n'a plus rien à voir avec le GIS de FATES. Je veux dire, bien sûr, les gens étaient là, les gens ont appris, mais je pense que c'est via la littérature qu'ils ont trouvé les concepts et qu'ils se sont dirigés vers nous pour essayer de le mettre en œuvre. Un autre projet qui s'appelle le projet artistique, qui est un projet financé par le Forum Belmont. Évidemment, les acteurs du projet, dont moi, sont des acteurs qui ont participé au travail du GIS Climat, mais ces objets se déploient ailleurs. Le cahier du participant a été utilisé dans un projet ANR, CO2 Mégaparis. Il est utilisé dans FATES et il est utilisé dans un projet européen qui est une de ces choses qui sont arrivées en grosse partie grâce au GIS Climat, le projet Euclea, qui est un projet sur les services climatiques et les événements extrêmes. Donc des outils disponibles et utilisés. En relisant le texte et en travaillant sur le corpus qui a donc été construit pour aujourd'hui et pour le texte, il y a aussi quelque chose qui est arrivé, que Sylvie a dit, c'est l'apparition de la transdisciplinarité, pour laquelle nous sommes, et je pense qu'on peut retracer ça au GIS Climat, nous avons une longueur d'avance, parce qu'on a balayé un terrain important, ne serait-ce qu'avec l'interdisciplinarité, mais aussi parce qu'on a très vite été confronté aux acteurs, comme interlocuteurs définissant la recherche. Ce qui nous amène à rencontrer du succès dans Euclea, un projet sur les services climatiques qui est évidemment qui a pour vocation, après on verra ce qu'on arrivera à faire, d'être piloté par les acteurs concernés par l'information climatique. Le projet artistique est un projet qui est à la fois fort sur l'adaptation en zone côtière, qui est fortement arrimé avec les communautés locales, mais aussi avec des équipes artistiques comme modalité de recherche alternative. Et puis le projet Eclipse, qui est un petit projet sur le plateau de Saclay, où là, on a un arrimage acteur-artiste de nouveau. Et donc, on est dans une pratique transdisciplinaire qui a été rendue possible par ce chemin parcouru en 7 ans. Finalement, on est dans une dynamique de communauté élargie existante. On a un capital, il ne faudrait pas le gaspiller. Ce n'est pas simple, mais il y a là vraiment quelque chose qui existe, dont en tout cas, moi, je suis bénéficiaire net, mais je pense d'autres collègues aussi. Alors, s'il ne fallait garder qu'une phrase de cette présentation, c'est une phrase qui vient de nulle part, mais que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, il n'y a qu'une forme de bonne interdisciplinarité, c'est celle autour de laquelle s'organise explicitement et consensuellement un collectif. Souvent, les gens vont dire « ça, c'est de l'interdisciplinarité, ça, c'est pas de l'interdisciplinarité. Ah non, ça, c'est de la multi. Ah non, ça, c'est de la trans. » On n'est pas en position de juger les pratiques d'hybridation. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de s'assurer que les pratiques d'hybridation naissent et naissent de façon honnête et stabilisée. Et donc, si une équipe de recherche décide que son interdisciplinarité est une simple juxtaposition, si ça nous convient, ne jugeons pas ça. Considérons que c'est l'amorçage. N'essayons pas d'avoir des types idéals, des « ideal types », d'interdisciplinarité. Essayons de lancer le chemin, d'amorcer. Et toutes les manifestations de l'interdisciplinarité que j'ai pu vous montrer, hybridation des données, ceci, cela, toutes sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Enfin, il n'y a pas de jugement à faire. L'important, c'est que le collectif qui porte le projet soit d'accord au départ sur ce dont il est question. Et puis, s'il ne fallait garder qu'un mot, c'est assez simple. Merci beaucoup à tous ceux, à la direction du GIS, aux équipes de chercheurs, à vous qui êtes ici, à Carrie qui a travaillé à récolter toutes ces données, etc. Merci beaucoup.